Marie Treps vient de publier « Maudit mot, la fabrique des insultes racistes ». Une invitée de choix pour avec elle investiguer ce processus de l'insulte raciste en cette journée du 10 décembre, journée internationale de défense des droits humains.
La première,
19h-20h,
au bout du jour,
Eddie Kackelbergs.
Les gens comme toi sont au-dessus de tout.
Les gens comme moi?
Quoi?
Y'a pas de problème, Lucien. Y'a trop d'arabes dans le coin. Tu peux continuer à cacher ton jeu, mais le racisme, c'est comme le cancer, et à un moment, ça se déclare.
C'est comme ça que tu me vois?
Ouais, Lucien, c'est comme ça que je te vois. En fait, t'es un raciste comme
sors.
Les autres.
Sors, je te dis!
Monsieur Guillard, tout à l'heure, nous avons quelque peu bavardé ensemble, et vous m'avez semblé un enthousiaste de la collaboration franco-allemande.
Absolument, et depuis toujours.
Eh bien, nous vous écoutons.
Nous voulons l'exclusion définitive de la juiverie. Où il reste un juif, il n'y a rien de propre à espérer.
La liberté d'expression est sacrée, c'est vrai. Nous devons la protéger. Mais le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions. Ce sont des délits.
Oui, en Italie, il y a beaucoup de racisme. J'ai surtout senti quand j'étais au Chievo Vérone. Dans les rues, par exemple, j'allais dans les magasins, on me regardait en mode « qu'est-ce qu'il vient faire celui-là ?» Comme si j'étais, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais de la merde. Et même dans les stades, hein, voilà, j'ai eu beaucoup d'insultes, négro di merda, etc. Mais quand ces gens ils disent là, moi je regarde dans les yeux et ils voient que je rigole et je leur montre que ça m'atteint pas.
Elle m'a dit qu'on lui a traité, qu'elle était plus moche qu'une gorille parce qu'elle avait une peau noire.
Bonsoir Marie Treps.
Bonsoir.
Fabriquer des insultes racistes, on va s'attarder sur la manière dont les mots résument ou résonnent. Mais est-ce que essentiellement c'est pour cacher ses propres failles qu'on essaie de s'en prendre à l'autre?
Ah, j'avais pas imaginé ça, non. S'il y a des événements particuliers quand même, les guerres, les colonisations, les immigrations qui ont suivi les guerres ou les colonisations, les conflits religieux, les confrontations culturelles. C'est quelque chose d'assez complexe, mais le racisme est sécrété quand la société a été confrontée à des autres, autres avec une majuscule. C'est comme ça que je l'ai écrit, des autres lointains, des populations qu'on a colonisées justement et qui ensuite ont pu immigrer vers la France, des autres moins lointains, des Polonais par exemple, des Italiens, des Russes, des Portugais, des Espagnols qui sont venus à la demande de la France en France pour renforcer l'économie, pour faire des tâches particulières. Et qui sont restés là. Et au moment où, dans les crises économiques précisément, ils ont été mal acceptés, il y a eu des heurts assez violents. Et le racisme s'est développé comme ça. Ou alors, des émigrations politiques, les mêmes Italiens, Espagnols, Portugais qui ont fui le fascisme, le salazarisme et le franquisme sont arrivés en France et ils n'ont pas été très bien acceptés non plus. Et puis il y en a aussi qui sont visés très anciennement, depuis le 9e siècle précisément, ce sont des autres de l'intérieur, les juifs qui sont là et qui d'abord pour des motifs religieux, puis au 19e siècle c'est assez compliqué de motifs sociaux, politiques, économiques, ont été stigmatisés. Et on a toujours trouvé des noms, des mots pour désigner tous ces gens.
Ça veut dire que la temporalité d'un certain nombre d'expressions est importante et en tout cas révélatrice. Ça veut dire que des mots qui étaient acceptés hier ne le sont plus aujourd'hui. De manière très contemporaine, aujourd'hui, c'est tout le débat d'ailleurs sur le mot nègre.
C'est le mot nègre, mais accepté... C'est difficile de dire accepter, je ne sais pas. En tout cas, oui, le racisme, le mot même de racisme est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Il est perçu et on essaye de lutter contre. Le mot nègre, il sentira toujours l'esclavage. Alors qu'est-ce qui se passe? On tente de remplacer ces mots gênants par des substituts. Par exemple, nègre, on l'a remplacé par noir. Mais le mot noir ayant fait lui-même problème, on a inventé une formule euphémique, gens de couleur. Et puis israélite a remplacé juif, mais israélite pose des problèmes aussi. Et ces mots nouveaux, il y a des expressions nouvelles qui viennent, elles viennent de très haut en fait, elles viennent des institutions gouvernementales. On essaye de dire minorité visible ou issue de la diversité. Mais ça n'empêche pas certains, dont je fais partie, de dénoncer la valeur stigmatisante subliminale de ces termes bien pensants et de faire remarquer que ça n'empêche pas, ça n'efface pas du tout le racisme.
Marie Treps, cette question qui se pose pour l'instant, et vous le savez, en Belgique comme en France comme ailleurs, d'ailleurs on parle de déboulonner aussi des statues, des lieux. D'autres disent non, il faut au contraire accompagner ou doubler ces lieux ou ces statues ou ces noms ou ces plaques commémoratives, d'autres plaques explicatives. Quelle est la transposition possible dans le langage? Est-ce qu'il faut abandonner effectivement le mot nègre tout en disant à Senghor ou à Aimé Césaire qui s'en flattaient qu'ils avaient tort, ou est-ce qu'il faut au contraire les encadrer?
Non, ils n'avaient pas tort. Le mot négritude, il a une belle aura, il devrait rester là. On ne peut pas dire à Senghor qu'il avait tort. Mais ce serait quoi l'alternative alors? Les supprimer, on ne peut pas. Vous savez, en France, on a supprimé le mot race de la Constitution, par exemple. Et alors on fait quoi? On l'enlève dans tous les textes du 18e siècle? Du 19e siècle? Ça veut dire qu'on ne peut pas supprimer ça, on ne peut pas quand même enlever les textes de Buffon, les textes... Voilà, c'est pas une solution, c'est d'ailleurs impossible. Alors dans la Constitution, on l'a remplacé par un autre, mais on oublie une chose aussi, il faut toujours revenir à l'histoire, au sens des mots, au moment où ils étaient employés, ils n'étaient pas forcément complètement négatifs, puis qu'on se répondait à une réalité. Je suis bien d'accord que traiter quelqu'un de nègre, il n'y a même pas besoin de mettre l'adjectif « sale » dedans, qui est bien pratique hein, pour rabaisser n'importe quel mot. Mais on peut ne plus l'employer, c'est sûr. On ne peut pas faire disparaître les mots et ça serait... je ne sais pas. Je pense à Orwell tout d'un coup et
à des sociétés.
À la novlangue. Les nazis avaient aussi inventé une langue particulière et en supprimant beaucoup de mots, beaucoup de choses. Ça ne dégage jamais un parfum agréable, ce genre de décision.
Dans la gradation, si tant est qu'il y en ait une, de la fabrique des insultes racistes, est-ce que l'on peut effectivement établir une hiérarchie? J'entends dans le degré d'acceptation ou de sentiment d'être révulsé quand on l'entend. À Merloc, beaucoup vont le dire, c'est encore tout autre chose de traiter quelqu'un, et je vais utiliser des gros mots, de youpin ou de crouille.
Ah oui, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, à Merloc, même si j'avais parlé de ce qui est attribué aux Américains, aux Anglais, ce que je n'ai pas fait, j'aurais pas retenu. Enfin, c'est vrai qu'il y a des mots plus ou moins violents. Il y a des mots qui sont, bon, gentils. Mais il y a d'autres procédés aussi qui ne sentent pas très bons. C'est le fait, puisque aujourd'hui, les propos racistes énoncés dans la sphère publique ou publiés sont sanctionnés. Ce qui n'a pas fait disparaître le racisme, ni son expression verbale, on a mis en œuvre des stratégies d'évitement. Les mots du répertoire, par exemple, ils ne sont pas employés, ils sont évités par les ténors du racisme, que ce soit des hommes politiques ou des amuseurs publics. Et il leur suffit de parler par insinuation, on se fait comprendre quand même, parce qu'on vit dans une société raciste très anciennement installée. Et puis à partir du moment où il y a des punitions, enfin des interdits, donc quand une injure est qualifiée d'injure raciste précisément, il y a des sanctions. D'abord, elles sont difficiles à accepter. Par exemple, je pense à l'affaire Guerlain. Jean-Paul Guerlain, le parfumeur, avait dit un jour « j'ai toujours travaillé comme un nègre ». Alors la LICRA a essayé de le condamner, elle n'a pas pu. C'est une expression qui existe dans la langue française, qui est là depuis longtemps, bon, qui est devenue plutôt quelque chose d'amusant.
De même que d'être le nègre de quelqu'un ou d'un auteur.
Voilà. Mais il a ajouté si tant est que ces gens-là aient toujours travaillé. Et là, c'est une projection, enfin c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qu'on a décidé, que les nègres, ils étaient très paresseux. Voilà. Et on a pu le condamner comme ça, c'est une idée toute faite qu'on a eue, et effectivement il a été condamné à une amende. Bon. Mais c'est difficile aussi, parce qu'on incite tout le monde à se contrôler, mais ça peut produire des effets délétères. Par exemple, je reviens aux hommes politiques, à certains que je ne citerai pas, mais enfin, et qu'il y en a qui ont brillé de cette manière, ou aux amuseurs publics, ils vont utiliser des euphémismes. Et le meilleur, le plus efficace des euphémismes, c'est l'humour. Le sucre de l'humour fait avaler la potion du racisme. On n'en sent plus l'amertume et on est autorisé à en rire. Donc c'est très compliqué et ça, on peut pas gommer tout ça. Mais quand il en arrive, le racisme produit des meurtres, par exemple. On sent que la gravité du problème, elle est là, bien sûr.
Est-ce que ce sont les territoires maudits de la langue, Marie Treps ?
Ah oui, c'est pas mal, on pourrait dire ça. Ce sont les territoires maudits de la langue. Mais il y en aura toujours, évidemment.
Lorsque on examine la situation actuelle, on a à la fois ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire ces envies d'évitement ou de suppression ou de bannissement d'un certain nombre de mots, d'attitudes, de monuments. Et en même temps, il y a ce que l'on appelle la libération de la parole.
C'est libération le contraste. Libération de la parole raciste.
Ouais. C'est le contraste.
Et oui, c'est le contraste. C'est-à-dire que qu'est-ce qui dérange au fond ? C'est des choses anciennes, la conviction selon laquelle il existe des races différentes et d'une. Ce qu'on peut admettre, ça dépend ce qu'on met derrière le mot race. Tous les hommes ne se ressemblent pas, ils sont différents. Heureusement, un monde sans différence serait bien ennuyeux. Mais la deuxième partie de la proposition, et elle est arrivée avec les évolutionnistes au XIXe siècle, c'est que certaines races sont supérieures à d'autres. Et alors là, ces idées-là ont été condamnées par la communauté internationale après la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'empêche, c'est vrai que libération de la parole raciste, elle est observée aujourd'hui. Alors c'est peut-être une nouvelle forme de racisme qui s'abrite derrière des préjugés culturels pour évacuer l'autre ou pour le maintenir à distance qui est là. Mais elle suppose pas mal de violence, et elle suscite aussi beaucoup de violence. C'est pas du tout anodin.
Cette mémoire qui fait mal, ou ces mots qui font mal, il y en a évidemment qui s'adressent sur le mode de ce qu'on appellera le racisme ordinaire. Il y a ces mots aussi qui qualifient une série de minorités au comportement minoritaire, mais dont on peut, avec le temps, oublier le sens ou l'atténuer. Ah oui. Je songe au mot « bougre » qui, à une certaine époque, signifiait ce qu'à d'autres époques on appelait « inverti » ou qu'on appellerait aujourd'hui « homo » ou « gay », mais pas dans le sens amélioratif. Mais aujourd'hui, on peut dire « oh bougre de bon sang de bonsoir » sans savoir ce que l'on dit.
C'est un juron là que vous venez de prononcer.
Ouais.
Ça reste quand même dans un territoire de la langue assez marginal et un peu sulfureux. Mais effectivement, il a quand même glissé, son sens a glissé. Il a plus ni la violence, ni le sens précis qu'il a eu effectivement. Ça peut toujours évoluer bien sûr.
Qu'est-ce que cela nous dit aussi dans l'ordre de la reconnaissance formelle ? Je prends l'exemple tout à fait récent du dictionnaire de la très célèbre université d'Oxford qui vient de remodifier son entrée sur les femmes, sur la femme, parce que effectivement il y avait là toute une série d'approches qui étaient pour le moins insultantes, voire minorisantes. Or, voilà une institution prestigieuse. Est-ce que vous imaginez que demain, l'Académie française doive jeter les volumes du passé parce qu'elle aurait admis un certain nombre de sens que nous jugeons tout à fait insultant aujourd'hui?
Non, tout au contraire. On ne peut pas gommer l'histoire. Ça serait quand même un très mauvais signe de gommer l'histoire. Maintenant, mais toujours, moi j'ai participé à l'élaboration d'un grand dictionnaire qui s'appelait Le Trésor de la langue française. Et aussi, c'est ce qui m'a permis d'écrire ce livre, de toujours trouver des exemples qui seront... Il faut toujours recontextualiser, donner les dates, etc. D'abord pour montrer le paysage de ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle quand tout à coup on s'était contenté par exemple du mot juif, éventuellement accompagné de sale, mais ça n'était pas du tout indispensable pour exprimer un mépris, un racisme vis-à-vis des juifs. Et puis tout d'un coup, on fabrique Youpin ou Youtre. Alors, c'est pas arrivé par hasard, c'est d'arriver dans un contexte historique. C'est ça, au contraire, il faut faire émerger, et c'est un peu le rôle des dictionnaires, le contexte historique qui a fait naître ces mots-là et qui, voilà, ça fait partie de notre histoire.
Qu'est-ce qui justifie d'ailleurs ce passage à un certain moment à l'acte ? Qu'est-ce qui amène ces nouveaux mots, alors que, vous l'avez dit, dans la langue des siècles qui précèdent, dire « le juif un tel » n'était pas une façon de l'honorer ?
Ça arrive quand il commence à poser problème. Et on ne parlait pas du tout d'antisémitisme au début, dans les débuts. Le début, c'est quand même au IXe siècle. C'est un évêque à Gobard, l'évêque de Lyon, qui est gêné par les juifs qui font une sorte de prosélytisme et qui se gênent.
Le recrutement catholique.
Et, voilà, si vous voulez, l'affluence dans les églises, etc. Et à ce moment-là, naît l'antijudaïsme. Et aussi, moi, ce qui m'a intéressé, donc je regarde ça et je me dis, mais comment ça a plu les gens qui, ça passait par des sermons, hein, on commence à la messe, on pouvait faire passer des idées comme ça. Mais quoi, les messes, tout était dit en latin. Mais à cette époque-là, justement, on commence à les dire en français pour pouvoir traduire ces idées nouvelles. Et puis, ça passe, et tout du long, je pourrais vous faire l'histoire de toutes les mots racistes, c'est ce que j'ai essayé de faire, à travers l'image. Et là, pour faire passer des idées, en l'occurrence au IXe siècle, avec des croyants qui n'étaient pas cultivés, etc. D'abord, on leur parle en français, et puis aussi, on fait des images. Dans la cathédrale de Strasbourg, il y a un couple de statues qui représentent l'église et la synagogue. Alors l'église, c'est un beau jeune homme, il tient la croix en guise de hampe, il a un visage radieux, comme ça on l'imagine blond d'ailleurs plutôt. Et en face, la synagogue, c'est une femme, elle a les yeux bondés et elle tient les tables de la loi à l'envers. Voyez, et ça, ça frappe les esprits, mais on va le retrouver tout le temps. On va le trouver dans les expositions universelles, dans la publicité Banania qui s'impose en 1918. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette publicité? Il y a un Sénégalais qui est là, hein, avec sa chéchia rouge. Là. Il a l'air très sympathique. Il a l'air très sympathique. C'est le noir qui n'est plus sauvage, parce qu'il y a aussi cette sauvagerie qui a toujours été associée au noir et aux mots qui les représentent de manière négative. Il dit quelque chose. Il dit « Ya bon, Banania ». C'est-à-dire qu'il ne parle pas bien français. Et ça a deux origines ou deux prolongements dans le temps. C'est-à-dire il est comme un enfant, il parle comme un enfant, et ça renvoie aux théories évolutionnistes qui disent que la race blanche, elle est en haut de la pyramide déjà, des races, et puis elle a abouti, elle a atteint son pleine expansion, et les autres, ben, ils seront restés entre l'état animal, avec la fameuse formule « l'homme descend du singe », et les Noirs sont restés, seraient restés, enfin, selon ces théories, à mi-chemin entre les deux, ou à l'état d'enfant, ne sont jamais devenus adultes. Mais ça nous dit aussi qu'ils parlent français. C'est à mettre au titre, dans l'esprit de ceux qui ont secrété tout ça, des bienfaits de la colonisation. Ils étaient sauvages, ils n'avaient pas... Et là, non, ils ont accès à la langue française. Mais pourquoi ils parlent petit nègre? Ben, le petit nègre, c'était la langue qui était utilisée pour l'instruction des militaires noirs qui étaient recrutés dans les pays colonisés, qui étaient recrutés dans l'armée française. Donc vous voyez, moi j'essaie de tirer des fils et, comme ça, de tous les côtés, pour essayer de comprendre et de montrer comment les choses sont secrétées. C'est assez complexe, mais...
Est-ce que, au bout du compte, on peut dire également, Marie Treps, que cette fabrique des mots qui blessent, ici en l'occurrence des insultes racistes, ces maudits mots, est-ce qu'ils, on serait presque tenté de dire, est-ce qu'on les tête avec le lait maternel? Est-ce qu'ils naissent déjà dans la cour de récré des plus jeunes?
Moi, je pense que oui. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que c'est propagé par les médias, hein, la presse, les médias audiovisuels et les conversations sur Internet. Privé, mais que ça naît beaucoup dans des lieux privés. Par exemple, les repas de famille, où il y a toujours un beau-frère un peu raciste qui fait apparaître un crouille ou un bougnoul entre la poire et le fromage, ou alors au café du coin. Quoi. C'est des choses qu'on n'apprend pas aux enfants, mais il suffit qu'ils aient des oreilles, qu'ils observent et qu'ils voient des choses pour que, effectivement, c'est une imprégnation comme ça qui peut commencer jeune, oui.
Il fut un temps où, par rapport à un certain nombre d'injures, il était de bon ton de dire « on va te mettre des pierres dans la bouche pour que tu apprennes à parler correctement ».
Jamais entendu ça, mais c'est très imagé.
Est-ce qu'il faut effectivement punir l'enfant qui, par mimétisme, utilise les mots qu'il ne comprend pas forcément? Ou est-ce que, comment est-ce qu'on s'y prend pour atténuer la puissance des mots qui blessent?
Déjà faire prendre conscience que tel mot qu'on peut employer comme ça, sans avoir l'impression d'être raciste, il faut faire prendre conscience qu'ils le sont. Ça ne concerne pas seulement les enfants. Je me souviens de quand j'écrivais ce livre, une émission télévisée menée par une journaliste française, Caroline Roux, et il y avait eu des débordements policiers avec ils avaient en face d'eux des Africains et il y a eu un peu de casse, donc il y a eu des dégâts collatéraux et on a parlé de ça. Et il y avait dans l'émission un représentant syndical qui était interviewé et il a raconté, eux ils nous traitent de, voilà, j'ai oublié d'ailleurs, et nous on les traite de bamboula, c'est pas bien méchant. Et je pense qu'il était sincère en disant ça. Et Caroline Roux a tout de suite repris en disant « Ah mais non, je m'excuse monsieur, on ne peut pas dire ça ». Voilà. Il n'y a pas que les enfants, d'abord, et puis il y a une part d'inconscience quelquefois.
Au bout du compte, est-ce que, en rédigeant d'ailleurs ce livre, qui, je l'imagine, pourrait ne jamais être terminé parce que La Fabrique des mots n'a pas été mise en faillite, est-ce que vous avez vous-même surpris dans votre propre habitude ou dans votre propre langage des mots qu'il vaudrait mieux ne pas utiliser ?
Non, je pense pas. On peut toujours faire des blagues, je veux dire. Même les gens concernés peuvent reprendre à leur compte en blaguant, se réapproprier les mots. C'est une question de contexte et d'intention.
Lorsque Barzotti chante « Je suis Rital et je le reste », il utilise à plein pot ce que vous venez de dire.
Exactement. Et Cavana a fait la même chose en intitulant son livre, ses livres « Les Rital, les Ruskoff ». Oui, bien sûr, on peut se réapproprier.
C'est l'intention qui compte.
Ah ben oui, bien sûr, c'est l'intention.
Votre objectif avec ces maudits mots, la fabrique des insultes racistes, Marie Treps, en deux mots, c'était quoi ? Nous faire prendre conscience ou faire prendre conscience à celles et ceux qui l'utilisent ? Parce que on pourrait se dire, mais en fait, vous allez convaincre les convaincus et vous ne toucherez pas les racistes.
Moi, j'aime bien comprendre. Je crois que mon intention, c'était de comprendre comment ça s'est passé précisément. Voilà, comment ces mots-là sont nés, comment tout le paysage qui est derrière, parce qu'il ne tombe pas du ciel par hasard. C'est au fond un livre d'histoire.
Merci de nous inviter à cette histoire qui nous tend un miroir et qui a combien, oh combien d'échos aujourd'hui dans notre société tous les jours. Maudits mots, la fabrique des insultes racistes. C'est votre livre, Marie Treps. Merci d'être venue au bout du jour.
Merci à vous.